Et vous écoutez France Culture. Le mannequin semblait dévisager Maya avec l'expression indifférente d'une guêpe maçonne. Mauvais genre qui fera cercle ce soir autour des nouveautés noires de cette rentrée littéraire 2017 avec des titres signés Buys, Faris, Genada ou Schipperholt et d'autres sombres émois rencontrent en seconde partie d'émission avec un des plus fiefés acteurs de la scène mauvais genre française. J'ai nommé Maxime Lachaud, historien des Mondo Movies et du cinéma Redneck, mais surtout directeur artistique du Fifi Gros, festival international du film Groslandais de Toulouse. Alors formons le cercle, entrez dans la danse. Et bienvenue à Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Mauvais Genre placé ce soir, vous l'avez noté, sous le signe de la rentrée noire, pas seulement de la rentrée polaire, mais la rentrée la plus noire possible, car aujourd'hui la noirceur, eh bien, se répand et se commet dans les littératures les plus variées, en témoigne notre programme de ce soir, que nous allons expliquer et expliciter avec des spécialistes, puisque c'est en effet la première du Cercle Noir. Le Cercle Noir, c'est une rencontre bimestrielle autour de la littérature noire, et vous retrouverez donc avec plaisir et profit à chaque fois d'excellents connaisseurs de ce type de production. En tout cas, je salue tout d'abord Maxime Lachaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Maxime Lachaud, mais parlez, approchez-vous près du micro, il ne vous en voudra pas, d'autant plus que vous êtes un collègue radio, Maxime Lachaud.
Bah oui, c'est vrai que ça fait pas mal d'années maintenant.
Combien d'années que vous faites de la radio?
Bah là oui, ça fait au moins 16 en tout cas.
16 ans, et on peut en dire un peu plus sur l'émission que vous produisez et animez?
C'est une émission qui s'appelle Douche froide.
Douche froide, oui.
Où on parle beaucoup de musique bizarre, d'artistes bizarres, de cinéma bizarre.
Voilà, et vous êtes venu bien évidemment à Paris pour participer à l'émission bizarre de France Culture.
Voilà.
Qui est mauvais genre. Mais on parlera de votre parcours, puisque j'ai cité comme les grandes étapes, et vous êtes un grand spécialiste d'Harry Crew, du Saucerne gothique et de tous les cinémas que l'on aime tant, et puis surtout directeur artistique depuis 2 ans maintenant, je crois, du Fifi Gros.
3 ans et des poussières.
Oui. Voilà, le Fifi Gros qui salue les 20 ans de mauvais genre, donc on se congratule mutuellement. Bienvenue à vous, Maxime Lachaud. Je salue Hubert Prolongeau.
Bonjour.
Première apparition au micro de mauvais
genre. C'est ça,
Hubert
terrifié, Prolongeau, mais qui va essayer de surmonter.
Célèbre de Télérama notamment, mais de bien d'autres productions, puis romancier, essayiste. Le dernier essai sur lequel, à propos duquel on a pu vous entendre,
c'est couvrir ce sein qui voilà, est une analyse de la signification, voilà, oui. La signification du corps nu dans toutes ces situations, des plus érotiques aux plus militantes.
Mais au travers des temps, au travers des âges?
Non, au travers de notre époque aujourd'hui, voilà. et en France.
Très bien, ben, bienvenue à vous. Merci. Hubert Prolongeau, donc à cette tribune des amateurs de noirceur, vous serez avec bien évidemment Élise Lépine, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
De bonnes vacances, Élise Lépine.
D'excellentes vacances, ensoleillées, on va changer de couleur, on va passer dans le noir.
De bien effroyables lectures.
Tout à fait.
Voilà, et je rappelle une fois de plus que vous pouvez retrouver Mauvais Genre... Ces hommes et ces pompes, l'étrange festival à Paris, donc au Forum des Halles, puisque Frédéric Tan nous a fait l'honneur et l'amitié de nous confier une carte blanche. Donc mardi 12 septembre à 19h45, c'est Lanterne Tragique avec Paco Mthielman, Thomas Berthet, Bertrand Mandico et Jean-Teddy Philippe. Et puis après, à 22h, on retrouvera un film qu'on voit rarement à la télévision et pour cause. Ce serait bien qu'on le voit en cette année du centenaire de Verdun. Enfin, du centenaire, l'an prochain plutôt pour le centenaire de l'armistice, c'est le Trio Infernal de Francis Giraud. Et puis le lendemain, mercredi 13, à 20h, Christophe Vire vous présentera le Lézard Noir. Je crois d'ailleurs que ça commence à devenir chaud sur les places pour le Lézard Noir, monsieur Maxime.
Je conseille de réserver.
Voilà, donc si vous voulez voir le maître Vire, le roi des obsessions, parler du Lézard Noir, dépêchez-vous. En attendant, eh bien, comme tous les samedis, nous ouvrons avec solennité... L'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et là, où va-t-on et à quelle lettre, chère Céline?
Quelque part, on reste à l'étrange festival, puisque la lettre de ce soir, c'est la lettre H, comme Aldernablo Quadriflore, un film de Tom de Pékin.
Ouais. Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette.
Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette.
Il m'appelait sa gosse, sa petite môme. me, dans le jour en bateau. Il me promenait la nuit fou de ma peau. Il me caressait, fallait voir comme. C'était un gars, c'était un homme.
Aldernablu quadriflore est le titre du film de Tom de Pékin. Le film commence sur cette scène étrange, en pleine nature, deux hommes en slip blanc, face à face, se tiennent par le menton, prêts à se donner de la tapette. L'artiste Tom de Pékin, bien connu pour ses dessins homo-érotiques et ludiques, auteur bien sûr de la célèbre affiche du film L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy, a choisi d'adapter à l'image le texte d'Alfred Jarry, Aldernablu. Écrite en 1894, c'est l'une des premières pièces francophones ouvertement homosexuelles. Jarry avait à peine 20 ans et entretenait avec le jeune Léon-Paul Fargue une relation aussi intellectuelle que passionnelle que l'on retrouve incarnée dans les personnages du livre, le page Ablou et le duc Alderne, un univers auquel s'est attaché Tom de Pékin.
Dans cette histoire de texte, l'idée de départ, il y avait... Derrière ça, une action militante, c'est-à-dire de faire connaître le plus possible cette culture. La culture de ce texte qui parle d'amour entre hommes. Il fallait que je trouve les moyens pour que ce texte puisse être vu, compris, écouté par toutes les possibilités les plus intéressantes, enfin en tout cas tout ce qu'on peut proposer autour de ça. Donc il fallait que je trouve des moyens pour chaque fois réactiver ce texte différemment. Donc effectivement il y a eu l'illustration, l'exposition des dessins, mais c'est l'édition du livre illustré, mais c'était pas suffisant pour donner vie à ce texte. Il fallait que je trouve d'autres moyens et aussi pouvoir entraîner d'autres personnes dans cette histoire, dans cette aventure, pour voir comment eux pouvaient réagir à travers ce texte. D'où l'idée de faire intervenir des chorégraphes, performeurs et acteurs.
Ce qui fait qu'on peut entendre des extraits du texte, mais qu'on peut quelque part presque voir danser le texte sans les mots.
Ah oui, complètement. Mais de toute façon, c'est quand même ce que l'on ressent à la lecture de la pièce. Parce que la pièce est très, très, très imagée, et tout en mouvement, tout en sous-couche. Donc on passe d'un univers à l'autre. Parfois, il faut même vraiment redécouvrir les mots qui sont utilisés, les insérer dans l'époque, parce que parfois, ça mène directement à des recherches ou à des découvertes scientifiques, biologiques de l'époque. Il rassemble comme ça énormément de choses. Donc, bon, avec toujours cette histoire autour de l'émotion, du corps et de la corde d'ailleurs, et de tous les sentiments amoureux. Donc c'est très très complexe parce qu'on sent qu'il y a quand même une histoire très complexe entre ces deux personnages et sans doute entre le rapport que Jarry et Farg pouvaient avoir ensemble.
Remplis le sablier d'albâtre, le cœur qui pleure ne peut battre. Comme lui, sous les ifs, nos pieds d'ibis sur les marais. Pleuvra la future lumière au plomb de vitraux des forêts sur notre tache de nécrophore coutumière. Sur la plainte des mandragores et la pitié des passiflores, le lombric blond des enterrements sort de cette tanière.
Aldernablu quadriflore est un film de Tom de Pékin composé à partir de la pièce éponyme d'Alfred Jarry. Et sur les 7 chapitres qui composeront le film, 4 seront visibles samedi 16 septembre dans le cadre de l'étrange festival qui se tient en ce moment à Paris, avec des performances pour ouvrir le film. Alors notez le casting de rêve, outre les chorégraphies de Daniel Larieux, Alban Richard et Michael Philippot, il y aura un rituel chamanique de Sébastien Lambeau, mon chaman fétichiste préféré. Les costumes sont faits par Labourette et vous aurez aussi probablement reconnu leur voix dans les extraits précédents. Elena Azera est au chant et Elina Lovenson joue le rôle de la princesse noire. Aldernablu quadriflore sera ensuite présenté à Bourges le samedi 21 octobre à l'occasion de l'exposition collective Traversée Renarde, à voir au Transpalette Centre d'Art.
Merci Céline pour cette entrée dans Caldernablou Quadriflore, pas d'erreur, c'est mauvais genre, donc de notre encyclopédie pratique. Connaissiez Maxime Lachaud, Tom de Pékin, Tom of Pékin et toute cette...
Très peu, donc c'est l'occasion de découvrir tout cet univers.
Je suis sûre que ça va vous plaire.
Ah oui, là,
ça, voilà, ça pourrait s'intégrer parfaitement dans le fifi gros. En tout cas, vous êtes notre invité ce soir, Maxime Lachaud, donc ce mauvais genre, le mauvais genre qui fait la rentrée, qui fait sa rentrée noire. Et qui danse la danse et la ronde la plus noire, le cercle noir. De Tang, un choix de Laurent Polleret pour cette playlist très noire de ce soir dans Mauvais Genre. Sur France Culture, on commence donc à danser la ronde, à entrer dans le cercle noir. Et le premier titre de ce soir dont nous allons parler, eh bien, il est signé Franck Buiss, Glaise à la manufacture de livres. Au milieu de la prairie du Bélier, Victor aperçut l'arbre foudroyé dans la nuit. Il tira sur la corde pour faire stopper le cheval. C'était un peuplier solitaire, dont le tronc ressemblait désormais à un gros tibia fendu par le milieu à 10 mètres du sol. Un vol de corneilles s'en approcha, hésita un instant en passant au-dessus de la catastrophe, puis les oiseaux se mirent à moissonner l'air de leur aile effrangée jusqu'à une proche lisière de chêne où ils se posèrent en silence. Plus tard, ils regardèrent passer l'homme sur sa monture, et l'un d'eux fit jaillir une langue pointue en croissant. Note lugubre, comme des lettrines sonores arrachées au livre des morts. Victor traversa des vallons, des combes, des prairies et des forêts, longea des haies, des murets faits de pierres ramassées dans les champs hors des labours, s'imprégna des odeurs de cette nature envers laquelle il lui sembla alors ne pas avoir assez témoigné d'égard. Tout ce qu'il dépassait au rythme calme et résigné du percheron pour se porter en terre étrangère au-devant d'une guerre abstraite. Voilà un extrait de Glaise de Franck Buiss qui est sorti il y a quelques jours à la Manufacture de Livres. Alors quelques mots d'abord, c'est votre choix, Élise Lépine, sur Franck Buiss. Qui
alors,
est-il?
Voilà Franck Buiss qui s'est distingué sur la scène du polar et du roman noir assez récemment avec Grossir le ciel. C'était en 2014, je crois, sur lequel il misait pas du tout. Lui d'ailleurs, il raconte l'histoire de deux vieils hommes dans les Cévennes, Gus et Abel, qui sont voisins. Ils ont un chien et puis ils se rapprochent comme ça. Ils sont tous les deux hantés par un passé qui va exploser en fait au fil du livre. C'est un livre assez inattendu puisqu'il sort vraiment des canons du polar actuel et qui a beaucoup, qui a très bien marché, qui a notamment eu le prix SNCF du polar, qui est assez un prix assez important et donc qui a lancé. C'est Franck Buiss qui a écrit d'autres choses avant, hein, qui sont aussi très bien.
Et mais puis on a d'autres choses qui collent à cet univers noir.
Voilà, il y a eu Pur Sang qui a été réédité, je crois, à la Manufacture de Livres d'ailleurs, qui appelle une suite qu'il va écrire plus tard et qui en fait se situe entre la France et les États-Unis. Et c'est une histoire d'Indiens, les nez percés, je crois, et qui reprend une histoire d'héritage. Mm-hmm.
Toujours les familles, le terroir,
voilà, toujours les familles, ouais. Avec des thèmes qui le travaille beaucoup, Franck Buiss. Et après, on a lu Plateau. Toujours à la Manufacture de Livres l'année dernière. Et maintenant, on a Glaise. Alors, Glaise, je trouve qu'on avance, on monte encore un niveau dans ce talent de Franck Buiss. Là, on est toujours dans une zone rurale, on est dans le Cantal, au pied du Puy Violent. Donc c'est une montagne qui va bien porter son nom d'ailleurs. Et on est en 1914, donc départ des hommes.
En août 1914, mobilisation générale, c'est parti.
Et vous l'avez lu, donc on voit un homme, Victor Larry, qui part avec son cheval qu'on va lui prendre aussi, et qui s'en va à la guerre. Donc moi je me dis, on va se retrouver dans un récit de guerre, donc on va partir dans les tranchées, etc. Mais pas du tout. La Franck-Bouis, ce qu'il réussit à faire, c'est que tout ce qu'on s'attend à trouver dans la guerre de 14-18, le sang, la peur, le feu, la boue, l'angoisse, il va nous montrer qu'on ne le trouve pas uniquement sur le front à Verdun, etc., mais on le trouve aussi dans ces fermes qui sont désertées par les hommes.
Donc il ramène l'avant vers l'arrière, si j'ose dire.
L'avant vers l'arrière, exactement. Parce qu'on va suivre ces personnages qui se retrouvent donc dans les fermes. Le Victor Larry laisse son fils Joseph, qui a 15 ans, avec sa femme. Et puis, pas très loin, une autre ferme voisine, il y a un homme qui s'appelle Valette et qui, lui, n'est pas mobilisé parce qu'il a un problème à la main. Il est amputé de certains doigts. Et donc, il ne peut pas partir. Il vit avec sa femme. Et ils vont accueillir une jeune fille, Anna, qui est la fille de son frère et sa mère, parce que le frère est mobilisé. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, Anna, qui a 15 ans, va attirer l'attention de Joseph, son voisin, qui a 15 ans aussi. Une amourette va naître, rien de grave jusqu'ici, sauf que Anna, qui est très jolie, va aussi attirer l'attention de son oncle. Et là, on va assister à quelque chose d'assez pervers, puisque le couple de Valette et de sa femme est un couple qui a un fonctionnement comme ça assez malsain.
Un peu thénardier, un peu aigri.
Elle refuse le sexe à son mari, donc son mari est frustré. On a l'impression qu'elle le fait presque un peu exprès, parce qu'après, vous savez, il y a des scènes où elle dit à la jeune fille, tiens, va dans la grange apporter son sandwich à ton oncle avec un petit air comme ça. Et en fait, quelque chose se noue qui évidemment va être très grave. Et on sent que ce Valette, notamment avec une scène de sexe qui est pas, le sexe n'a pas lieu avec la personne avec qui on s'attend, mais une scène très importante dans une grange qui va nous montrer que ce Valette est prêt à tout et capable de tout. Et la littérature de Franck-Bouis fonctionne en général comme ça. Elle fonctionne un peu sur un système de corde à nœuds. C'est-à-dire que son texte est parsemé de moments de tension très importants, qui sont des moments qui sont absolument pas gratuits, où il y a des événements qui ont lieu et qui amènent l'histoire vers un autre, vers une succession comme ça de niveaux jusqu'à une explosion finale. Voilà. Et donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Pour notamment ce sujet original d'être dans la campagne hors guerre de 14,
que la guerre se déplace à l'intérieur d'une petite communauté paysanne.
Et puis moi j'aime beaucoup aussi Franck-Bouis parce que il nous sort un peu de ses polars avec un cadavre au début du livre et puis après qu'est-ce qui va se passer. Franck-Bouis, c'est le genre d'auteur qui s'intéresse, vous savez, le petit médaillon de votre grand-mère avec une photo et puis on sait pas qui c'est et puis personne dans l'arbre généalogique ne sait qui c'est. Et il est vraiment sur ces sujets-là. Mm-hmm. On a tous dans nos familles, dans nos histoires, cette personne qui était mystérieuse, cet enfant qui est né, on savait pas qui l'avait fait, et lui déroule ce genre d'histoire. Et vraiment, il le fait très très bien. Donc moi, c'est ça que j'ai aimé. Et aussi, il a des obsessions qui reviennent. Mm-hmm. Il parle beaucoup de la folie. Donc on a la folie, dans Plateau, par exemple, il y avait un prédateur qui rôdait, donc il y avait cette folie destructrice. Mais là, on a différentes folies. On a par exemple la femme qui supporte mal le départ de son mari, puis qui va décrocher. Et qui va c'est la mère de la jeune fille, hein, qui est victime, qui est l'objet de la convoitise de Valette. Et elle va complètement se détacher de tout ça. Et il y a cette folie légère, et puis il y a des folies beaucoup plus graves. Il y a une psychose extrêmement impressionnante qui est traitée par Franck-Bouis. Donc tout ça est fait aussi dans une langue. Et ça, c'est l'autre point d'intérêt dans les romans de Franck-Bouis. Il ne se contente pas d'une écriture sujet-verbe-complément. Qui est très à la mode, hein, dans le polar encore.
Hélas.
Et lui, il nous sort de ça. Et heureusement, par exemple, la première phrase, c'est ce qu'il...
On se reporte tous à son exemplaire.
Ce qu'il advint cette nuit-là, le ciel seul en décida. On est dans des octosyllabes, on est dans des alexandrins, on est avec un auteur qui prend le temps de choisir son vocabulaire, d'aller vers un autre vocabulaire que celui qu'on attend. C'est quelqu'un qui s'y connaît très bien en horticulture, donc il connaît le nom des plantes. Donc on se retrouve dans un univers noir qui est aussi composé d'un vocabulaire très spécifique, très cherché, très recherché, et avec une langue extrêmement poétique, extrêmement travaillée. Je trouve que ça fait du bien aussi aujourd'hui dans le polar où on a trop été vers les purs.
Alors Hubert Prolongeau.
Et moi, il y a le cadre aussi auquel j'ai été très sensible. Parce que ça se passe dans le Cantal. Et là, une manière de raconter la nature, d'en parler, de l'accorder aux personnages, de faire vivre tous ensemble, qui est assez étonnante. Ça, a priori, ça fait pas rêver le Cantal. C'est pas le Michigan, c'est pas le Missouri, c'est pas. Et il arrive à faire vraiment qu'on s'y sente, qu'on sente le passage des saisons, qu'on sente surtout la manière dont tout ça colle à la violence des passions. Parce que toutes les passions du livre, l'amour, la haine, la jalousie, sont des passions avec des majuscules, avec des, mais sans que jamais ça tombe dans l'emphase, sans que jamais ça devienne caricatural. Et je pense que la présence étonnante de ce paysage derrière joue beaucoup. Ça m'a fait penser un peu à ce que réussissait, on en parlait tout à l'heure, Pierre Pelot. Qui voilà. Lui aussi est un des rares auteurs, un des rares auteurs de polar ouais. français qui arrive à, au-delà de l'univers urbain dont on est quand même un peu gavé, à ancrer vraiment dans un monde rural crédible avec, des intrigues avec et des personnages.
D'autant qu'un lieu qui n'est plus un décor, qui est véritablement une sorte de centrale d'énergie dramatique, et le lieu sert l'histoire et l'histoire sort du lieu et il y a une sorte de dynamique narrative qui se crée entre la sauvagerie du lieu et la sauvagerie des personnes. On est là dans une sorte de genre de plaquage d'un polar paysan plaqué sur un décor un peu pittoresque.
D'ailleurs, Franck Brice n'apprécie pas du tout le terme polar rural. Hein. Je crois qu'il ne veut pas avoir cette étiquette.
Et parce que c'est l'inverse de certains polars régionalistes qui fleurissent aux presses de la cité ou autres, où comme ça, on colle généralement un gendarme qui, dans un monde dont on nous détaille avec un peu de lourdeur les pratiques et les rites, résout une intrigue. Là, non. Là, on sent que ces personnages sont d'ici, qu'ils auraient du mal à être d'ailleurs et que c'est là qu'ils ont vécu, grandi et que c'est à cause de ce lieu qu'ils sont ce qu'ils sont.
Voilà. Et comment vous avez trouvé l'articulation entre le conflit mondial et ce fait divers, on peut le dire.
Ben elle est, il y a une espèce de projection, effectivement, c'est un peu le mythe de la caverne à l'inverse, quoi. On a ça qui est dehors, et puis on en voit les conséquences, mais sans là aussi de lourdeur descriptive, sans le rappel permanent de ce qui se passe dehors, et donc il y a un concentré, effectivement, dans ce lieu de ce qu'est l'explosion européenne.
C'est un livre qui a un peu les mêmes vertus que de films comme Goupy Main Rouge, par exemple, où on n'est pas dans le film donc d'après Pierre Véry, avec le Vigan, justement, on n'a pas du tout cette espèce de sentiment d'un film de terroir. On est dans une sorte de tragédie qui s'inscrit dans un terroir, mais qui n'en est pas, je dirais, le décor plaqué.
C'était le génie de Becker d'arriver comme ça, à travers des milieux assez caricaturaux, faire sortir la tragédie dans ces films de gangsters.
Et je trouve qu'on retrouve un petit peu du Le Vigan de Goupy Main Rouge dans les personnages de Franck Bouy. C'est vrai, vous connaissez bien cet univers-là, non pas le Cantal, Maxime Lachaud, c'est beaucoup plus au sud et au sud-ouest, mais l'univers du Saussure gothique, de Flannery O'Connor, de Faulkner, là aussi, on a un terroir paysan, on a un terroir violent et des personnages qui ne sont pas comme piqués ou plantés dessus, mais qui germent, qui en sortent.
Ah, ils sont presque engendrés par le décor, ces personnages, c'est toujours un tout. C'est tous ces auteurs là, oui, donc la tradition un peu post-Faulkner,
voilà,
et tout ça qui a inspiré beaucoup de ces auteurs récents qu'on trouve dans toute cette vague du néo-polar, hillbilly, country noir, qui est une sorte de, ça représente une masse aujourd'hui cette littérature.
Et Franck Bouy, c'est vraiment un fils de cette littérature américaine. Il s'en réclame d'ailleurs. Il aime beaucoup la littérature, le nature writing. Il aime beaucoup les écrivains du Montana, etc. Et d'ailleurs, il aime aussi beaucoup Faulkner. Et il y a plusieurs références qu'on peut trouver dans le texte à Faulkner. Il y a les bruits et la fureur. Il y a Ils endurent, They Endured, qui est aussi une référence au bruit et la fureur. Enfin, il y a beaucoup de références à Faulkner et très habité par lui. Et ça se sent.
Donc, Glaise de Franck Bouys, c'est à la Manufacture de Livres. On va passer maintenant au second choix de ce soir. La Tanche de Inge Schilperod, c'est aux éditions Bellefond. Maintenant, je dois faire bien attention, se dit Jonathan. Maintenant. Cela commence maintenant. Il posa ses mains tremblantes sur ses genoux et frotta lentement, avec son pouce droit, la phalange de son pouce gauche, dans l'espoir de se calmer. C'était sa dernière matinée de détention. Comme toujours, il était seul dans sa cellule. Sa cellule, que les autres, les gardiens, appelaient sa chambre. Il était assis sur le lit, regardait fixement le mur et attendait. Il ne savait pas quelle heure il était. Tôt. Il était tôt en tout cas. Le premier rayon de soleil venait de s'introduire à travers la fente de ses rideaux trop fins. Peut-être 5h30, 6h. D'ailleurs, aujourd'hui, peu lui importait. « J'ai le temps, se dit-il. À partir de maintenant, j'ai tout mon temps. Et ils viendront quand ils viendront. Quand ce sera le moment, ils viendront. Je ne peux rien y changer. Ils ne viendront ni plus tôt, ni plus tard. Je verrai bien. »
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà les premières lignes de La Tanche de Inge Schilperode, paru aux éditions Belfond. Alors autant avec Franck Bouys, on était dans le grand angle, si j'ose dire, dans les paysages et l'ensauvagement, la sauvagerie, dans des milieux ruraux, une sorte de tragédie revisitée sur fond de Première Guerre mondiale. Autant avec La Tanche d'Inge Schilperode, on est dans, alors le contraire, Hubert Prolongeau, c'est notre choix, dans le confinement, dans une espèce de chambre sourde où chuchote un homme en proie à l'angoisse et à la culpabilité.
Et on est dans sa tête. Et ce qui est très étonnant, c'est que cet homme est un pédophile, donc est sans doute ce qui aujourd'hui, même si la notion a beaucoup évolué en littérature, mais aujourd'hui incarne l'horreur absolue. Et Inge Schilperode, c'est son premier roman. Elle est journaliste, elle écrit pour des journaux hollandais qu'on me dit prestigieux, mais dont j'ignore tout. Et elle est surtout psychologue judiciaire. Et c'est en tant que psychologue judiciaire qu'elle a rencontré un certain nombre de pédophiles avec qui elle a parlé. Elle a eu envie, pari extrêmement risqué, et ce qui est formidable dans ce livre, dont je ne sais pas s'il révèle un grand écrivain, mais qui est lui-même extrêmement réussi, c'est d'avoir tenté ce pari. On se souvient des tentative un peu similaire de Nicolas Gorlin-Jones avec Rose Bonbon, ou Jones Gorlin, je sais plus, et de Nils Kureki avec qui il entrerait dans la légende, qui étaient, à mon sens, des gros rattaches parce que sombrant dans le piège majeur qu'évite Inge Schilperode en permanence, qui est la complaisance. Donc elle accompagne. Alors,
qu'est-ce que vous appelez la complaisance? C'est-à-dire. La complaisance, se repaître un petit peu, voilà, du tourment de son héros, c'est quoi?
C'est laisser s'incarner de manière excessive et parfois ambiguë le fantasme. Là, elle en parle très peu. On sait ce qu'a commis ce garçon. Il a agressé une petite fille. Il le rappelle. On le voit lutter contre le désir qui le prend face à sa petite voisine de 8 ans, alors qu'il voudrait tout faire pour ne pas y céder. Mais jamais on ne franchit cette barrière où on se mettrait à être d'accord, à l'accompagner, à prendre pour soi ce qu'il raconte. Et tout le danger de ça, c'est cet équilibre. Comme tous ces livres qui essaient de rencontrer dans la tête de serial killer. Mais le serial killer est un personnage moins répulsif aujourd'hui que le pédophile. Et qui parfois sombre totalement dans une espèce, même une série comme Dexter, je trouve, flirtait beaucoup avec
Dexter, il y avait une sorte de cocasserie macabre.
Oui, mais il y avait quand même par moment cette complaisance. Et là, Schilperode l'évite tout le temps. Elle l'évite par une écriture assez neutre. Elle l'évite parce qu'elle évite absolument tous les effets. Elle se contente de manière, alors là, en revanche, pas littéraire et revenant beaucoup au sujet phrase complément, mais là, ça prend pleinement son sens, voilà, de cerner au plus proche les pulsions de ce garçon et la façon dont il lutte contre. C'est pas histoire de dire il a tort, il a pas tort, il est gentil, il est méchant. C'est de mettre quelqu'un et de le confronter à son problème majeur qui est comment résister, ce qu'il voudrait, à quelque chose qui le dépasse et qui est plus fort que lui. Et elle y arrive avec une rigueur absolue, elle refuse toute facilité psychologisante. Il n'y a pas d'histoire de père qui l'a violée, d'enfance malheureuse. Elle avait prévu ça au début, dit-elle. Elle a écarté tout ça. Donc il reste simplement le fait brut, ce garçon travaillé par ses pulsions contre lesquelles il voudrait lutter, qui sort de prison dans laquelle il était au terme d'une erreur procédurale et à qui on a remis un manuel. La naïveté de la démarche paraît énorme. Un manuel auquel il essaie de se conforter pour pouvoir résister. Et puis voilà, et puis il est confronté à la tentation et le livre raconte
Comment justement, à quel moment et de quelle manière la romancière révèle-t-elle, je dirais, la nature de la culpabilité du personnage?
Elle le révèle très simplement parce que c'est totalement inclus en lui. Donc il ne se présente jamais comme ça. Il n'y a pas un avant, un après. Il n'y a pas « je suis pédophile » au sens où je me définirais comme tel. C'est quelqu'un et il a ça. C'est comme quelqu'un pourrait être handicapé, comme quelqu'un pourrait être borgne, pourrait... Lui, voilà, il a ses pulsions, il sait ce qu'elles l'ont coûté, il ne les approuve pas, il n'y trouve, il répond plus à un besoin qu'à un bonheur. Donc il y a aussi jamais une mise en perspective du plaisir que ça lui procure. Il sait que il va vers ça, il sait qu'il est incapable d'y résister, mais jamais on ne valorise le sentiment positif qu'il pourrait avoir à ça. Et c'est ça, ça a l'air de rien, mais ça suppose une compréhension de ce qu'est le pédophile très puissante, et ça suppose une capacité à se mettre à sa place qui est très 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 difficile. D'autres romans ont essayé de raconter comme ça l'innommable en se mettant à la place des gens qui l'ont commis. Je pense au roman La Nuit de l'Aurore de Dalton Trumbo, ou aux essais de Robert Merle, La Mort et mon métier, voire des bienveillantes sur les chefs des camps de concentration. Et il y a toujours, même si ces livres sont réussis, chez Merle par exemple, une tentative d'explication. C'est parce que son papa était trop rigide qu'il en est arrivé là. Là, pas du tout. Voilà. On se trouve devant une espèce de malédiction. Ce garçon est malade, parce qu'il est malade autant que coupable. Et peut-il y résister ? Et le livre crée un suspense autour de cette question, mais un suspense purement psychologique, et c'est assez fascinant. Alors, je lui ferai un seul reproche, c'est la fin, donc je voudrais pas spoiler exagérément, mais à un moment, Jonathan se trouve confronté au choix, on sent la tension qui monte, on sent ses capacités de résistance à ses pulsions diminuer, et voilà, il y a un moment où passage à l'acte ou pas passage à l'acte, et là, il y a une espèce de deus ex machina qui intervient, qui fait que la réponse à cette question n'est pas donnée clairement, comme si au dernier moment, elle avait eu peur d'aller jusqu'au bout, et s'en sorte de manière un peu artificielle. Ça n'enlève pas ses qualités au livre, mais c'est un peu dommage qu'il y ait ce dernier pas dans une démarche aussi tenue qui n'aille pas totalement jusqu'au bout.
La Tanche, donc, de Inge Schilperoth, c'est chez Belfond. Élise Lépine, votre lecture de ce premier roman. Donc.
Alors, moi, je suis d'accord.
Alors, pourquoi ça s'appelle La Tanche?
Oh, parce qu'à un moment, il y a un poisson.
Le mystère est là.
Il y a un poisson.
Il élève des poissons.
Et cette tanche prend une valeur un peu symbolique.
Symbolique. D'ailleurs, cette tanche, elle était importante pour moi. Je vais en parler parce que, justement, alors, moi, je suis d'accord pour dire que ce livre est réussi. C'est un livre qui est bien écrit et qui est important et qui dit quelque chose et qui le dit bien, comme vous le disiez tout à l'heure. Après, moi, j'ai pas pris de plaisir à le lire. Ça m'a même été assez pénible. Par exemple, on parlait de cette tanche. Cet homme, Jonathan, il a un poisson dans un aquarium qui est en train de lentement mourir et on le voit plat, visqueux, etc. Et moi, ce personnage de Jonathan m'a fait le même effet que ce poisson. Il y a eu une substitution comme ça, parce qu'il est bête, ce type. Il faut quand même le dire. Il lui manque des cases, quoi. Il a un QI assez faible. Et il est là pendant toute la durée du livre avec ses atermoiements. Je dois le faire, je dois pas le faire. Ah, mon guide, pour que je vois comment je dois réagir. Ah, je n'y arrive pas, etc. Et donc, il a cette lenteur intellectuelle qui est en plus amplifiée par le style, puisqu'elle décrit tout. Il monte les escaliers, son t-shirt lui colle à la peau, le parquet grince, il rentre dans sa chambre, le poisson est collé au sol, de la vase au coin des lèvres, etc. Et tout ça est agaçant un peu, enfin crispant ou irritant.
Volontairement agaçant.
Je pense volontairement.
Une stratégie de l'irritation.
Du coup, ce type est absolument détestable. Il m'a fait cet effet d'être froid, visqueux, lent, lourd et pénible.
C'est là où le livre est réussi, c'est parce que jamais on se dit « Ah, le pauvre, on n'est pas pris de pitié. »
Ah non, on n'est pas pris de pitié, au contraire.
Il a sa pleine humanité, mais effectivement, on ne s'apitoie pas. Et, l'idée n'est pas de le faire passer pour quelqu'un de bien ou de valoriser ce qu'il s'apprête à faire. Mais le fait qu'on ne prenne pas de plaisir à le lire, à mon sens... Quand c'est remplacé par cette espèce de rigueur, n'est pas un défaut, je pense. Alors, c'est des exemples cinéma, mais le film de Ken Loach, par exemple, Lady Bird, qui est insupportable tellement il est dur, ou le Vénus noir de Kechiche, ou tout ce que subit cette malheureuse fille. Autant de tot fait qu'on se sent enfermé avec elle en permanence. C'est des films comme Les Latanches qui sont étouffants.
Oui,
qui sont,
non, c'est leur vrai. Force, on est coincé avec lui. Il est très antipathique et vraiment aussi, je pense que ce que pointe du doigt ce livre, c'est aussi le système judiciaire d'une certaine façon, puisque on le laisse sortir 80% de chances de risque de récidive. On le laisse sortir avec un manuel et un psy qui. Et puis on voit que le psy le prend avec des pincettes aussi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je dis pas qu'il faut enfermer les pédophiles et les castrer, les laisser pour mort dans un coin. Mais enfin, quand même, on se dit... Et puis alors, sa mère aussi. Il vit avec sa mère. Et moi, je me suis quand même demandé quelle était l'intention de l'auteur là-dessus. C'est-à-dire pourquoi est-ce que sa mère voit une gamine venir voir le chien de ce pédophile, le caresser, passer du temps avec eux, etc. Pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas
parce qu'elle a, je crois,
elle est dans le déni.
Voilà, elle est dans le déni et son fils revient et elle veut pas croire que, elle veut pas croire qu'il y a un risque, elle veut pas croire que ça peut recommencer.
Vrai, effectivement, hein, on
mais
veut
tout
pas
ça, tout
que...
ça est dit sans être appuyé. C'est la force de ce livre, c'est que jamais elle ne surligne rien de tout ça. Ce qu'elle dit du système judiciaire, c'est vrai, mais c'est pas l'essentiel du livre. C'est pas un livre là-dessus. C'est vu à travers les pensées de Jonathan. Et en fait, c'est un livre qui a un seul point de vue. Donc tout ce qui est autre est périphérique. Mais c'est ça sa force. C'est qu'on est effectivement, ça pourrait s'appeler Dans la tête d'un pédophile. Et c'est pas évident d'y rentrer. Mais une fois qu'on est dedans, on s'aperçoit que elle nous guide avec une rigueur et une humanité suffisante pour que on comprenne sans excuser.
Voilà, d'autant que le style, effectivement, répétons-le, est un style minimaliste, où le personnage est comme ça, pris à l'intérieur de lui-même, confiné, immobilisé, paralysé, et le style restitue cette absolue incapacité, il s'arrache les peaux des ongles, mais il a peu de mouvement, il a peu de temps. Alors, évidemment, il sort avec son chien sur les dunes, mais même sur les dunes, face à la mer avec le chien, il arrive quand même à rester à l'intérieur, cette espèce de camisole psychique, dans laquelle il a peur de sortir, puisque s'il en sort, ben on sait très bien ce qui peut lui arriver.
Et c'est pour ça qu'elle travaille sur un second roman qu'il n'est pas sûr qu'elle... Il y a des fois, on se dit un écrivain est né. Là, moi, je dis un livre extraordinairement risqué et presque totalement réussi, mais... Est-ce qu'un écrivain est là vraiment qui pourra renouveler ?
Moi, j'ai pas trouvé qu'elle avait un style
pas.
Incroyable.
Non, mais elle a pas de style parce que justement, ce qui aurait été une faute et une erreur, c'était de faire du style avec ce sujet-là. Et toute sa force, ça a été de ne jamais en faire.
La Tange de Inge Schilperoth, c'est aux éditions Belfond, dans une traduction d'Isabelle Rosselin. On continue avec un nouveau texte, alors de Philippe Génada, alors qui est un auteur tout à fait sidérant, parce que La Petite Femelle sur l'affaire Pauline Dubuisson était déjà très très étonnante. Après et avant sur Bruno Sulac était quand même des livres peu communs. Alors là, c'est très très passionnant puisqu'on évoquait l'univers de Franck Bouys, c'est-à-dire Goupy Main Rouge mais dans le Cantal pendant la Première Guerre mondiale, une sorte de tragédie rurale comme ça. Là, on se retrouve également pendant une autre guerre mondiale, la seconde, en octobre 1941, dans un château du Périgord où vivote et survit en pleine occupation une famille bourgeoise décadente qui est, on peut le dire, martyrisée par le fils de famille qui s'appelle, un personnage un peu à la Simenon. Il y a un côté l'affaire Saint-Fiat qui est martyrisé par ce fils de famille, il s'appelle Henri Girard, qui a multiplié tant par son attitude que par son mariage des comportements violemment transgressifs par rapport à la norme bourgeoise qui est celle de sa famille, de son père, de sa mère, de ses tantes et tout ça. Et puis un jour, que se passe-t-il ? Un matin, eh bien, on retrouve effectivement dans la nuit une sorte de triple assassinat. Le père, la tante et la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Et c'est sûrement une des plus grandes énigmes criminelles de cette, avec peut-être l'affaire Petiot, mais d'une autre tout à fait autre catégorie, de l'occupation. D'autant, pour deux raisons, d'autant que celui qui va défendre le fils de famille coupable, point d'interrogation, qui est Henri Girard, eh bien, c'est l'immense Maurice Garçon, dont je ne répéterai jamais assez que le journal de l'occupation paru aux belles lettres et maintenant chez Tempus est un monument de littérature française et qu'il faut le lire. D'ailleurs, il parle de l'affaire dans son journal. Donc, la figure de Maurice Garçon apparaît de manière étonnante. Et puis après, Henri Girard fera carrière en littérature. Ce sera notamment lui qui, au terme d'une grande saga en Amérique du Sud, écrira Le salaire de la peur et dont Clouzot tirera le film que l'on sait. Clouzot, d'ailleurs, qui est à l'honneur cette année. Et nous en reparlerons, d'ailleurs, de Henri-Georges Clouzot le 14 octobre. Je ferme la parenthèse. Donc, La serpe qui est l'objet du délit, Élise Lépine.
Qui est l'objet du délit, effectivement, puisqu'il s'est servi d'une serpe qu'il avait empruntée la veille, comme par hasard, au gardien. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, je me suis dit, tiens, Philippe Génada va nous parler d'un vrai méchant, quand j'ai lu le début, en tout cas, parce que cet Henri Girard n'est pas du tout, sympathique, alors que Pauline Dubuisson et Bruno Sulac avaient choisi des figures, quand même, effectivement, qui étaient aussi dans du monde d'affaires judiciaires, mais qui étaient des figures attachantes et qui étaient fondamentalement des figures bonnes. Alors que là, Henri Girard, on se dit, on va pas l'aimer dans les premières pages, dans le premier tiers. Et puis finalement, il en fait un portrait extrêmement nuancé, qui est très intéressant, d'autant que Philippe Génada, ce qu'il fait, c'est qu'il il fait beaucoup de digressions, beaucoup de parenthèses, il parle beaucoup de lui. Et moi, j'ai beaucoup aimé toutes ces parenthèses. Il nous raconte son périple pour aller faire cette enquête, qui par ailleurs est une enquête magistrale, phénoménale. Mmh. Il nous redonne le goût des enquêtes à l'ancienne, c'est-à-dire où on est dans vraiment du roman classique. Il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de génétique, il n'y a rien. Là, on recherche des choses, on déroule des archives, et il nous donne ce goût-là. Et par ailleurs, il nous raconte aussi qui lui, il est. Il parle de la relation, notamment, l'un des points importants, c'est la relation de Henri avec son père, qu'il est censé avoir assassiné. Et puis, il sort ses lettres d'amour incroyables entre le père et son fils. Et par ailleurs, Génada nous parle aussi de son fils à lui, son Ernest, qui fume des cigarettes, qui est déjà grand, ado, et il nous parle de lui avec beaucoup de tendresse. Et c'est vrai que ça plaide aussi dans ce livre pour cette figure d'Henri Girard. On se dit, il nous dit finalement, voyez comment on s'aime quand on est un père, comment on peut s'aimer quand on est un père et son fils, et voyez, est-ce que ce fils a tué son père? Est-ce que vraiment il était ce monstre-là? Et donc, c'est touchant. Il y a quelque chose d'extrêmement sentimental dans ce livre aussi, et par ailleurs, qui se superpose à l'enquête, à l'enquête formidable. Formidablement mené.
Hubert Prolongeau, et la serpe, à coup de serpe.
Moi, ça, c'est cette implication de l'auteur que je trouve réussie. C'est un procédé qui est à double tranchant, sans jeu de mots. ça peut être totalement narcissique, n'avoir aucun intérêt, comme dans un certain nombre d'articles, de suivre l'enquêteur qui raconte ce qu'il a trouvé. Et là, au contraire, lui arrive à en faire un jeu de miroir, ce qu'avait magistralement fait Emmanuel Carrère dans L'Adversaire, qui pour moi reste un chef-d'œuvre absolu du genre. Et Janada arrive comme ça, à mêler tout à fait les deux. C'est-à-dire, il donne un éclairage sur cette histoire dont, effectivement, elle est vaguement dans la mémoire collective, mais de manière très, très, très diffuse. On sait un peu qui est Georges Arnaud, tout le monde a vu le salaire de la peur, mais on ne sait pas au-delà. Et d'un coup, il met d'abord une humanité réelle sur toute cette affaire. Et au lieu qu'elle s'arrête pure œuvre d'histoire ou pur livre de journaliste, il arrive, par ces espèces de va-et-vient, à en faire aussi une œuvre d'auteur. Et à le relier, en fait, comme La Petite Femelle et Sulac, à ce qu'étaient ses premiers livres, qui étaient des romans, là, drôles, narcissiques, et que le nombrilisme pouvait menacer. Là, au contraire, il leur donne, comme ça, dans cette exploration de grandes affaires du passé, une espèce d'ampleur qui est étonnante.
Avec une méthode qui est un peu celle, qu'on dirait, du journalisme gonzo américain, que Maxime Lachaud connaît bien, qui est de donner autant d'importance au regardeur qu'à ce qui est regardé. C'est-à-dire à la manière dont on enquête qu'à ce sur quoi l'on enquête. Effectivement, l'expédition qu'engage Philippe Génada dans le sud-ouest à la rencontre de cette affaire est tout aussi rocambolesque, romanesque, que l'affaire elle-même. Donc, le lecteur est un peu troublé comme ça, et assez excité par cette espèce de passage en permanence, disons, de l'aventure du narrateur à l'aventure des coupables.
Et il y a quelque chose qui est rare aussi chez Philippe Génada, c'est que c'est un auteur qui est très généreux. Et il est généreux dans le rapport qu'il a avec son lecteur, non seulement dans les détails qu'il donne et les histoires qu'il raconte, il sait qu'il raconte de belles histoires, de bonnes anecdotes, mais aussi, par exemple, il revient sur l'histoire de Pauline Dubuisson, il revient sur une partie, par exemple, sur la mort, la sépulture de Pauline Dubuisson. Il dit, je savais pas, il me manquait une information quand j'ai terminé mon livre La Petite Femelle, je la donne ici, et il nous raconte l'histoire, et on est pris, parce que finalement c'est un auteur qui donne et qui nous donne envie de recevoir et de l'écouter et de le suivre. Donc ça, c'est aussi un tour de force.
Et c'est le romancier, en fait, ça, c'est pas un document. Non, c'est un roman à cause de tout ça. Et en même temps, c'est un formidable document, parce qu'effectivement, le travail d'enquête est...
Une petite citation sur Maurice Garçon, excusez-moi, mais c'est une de mes passions. Comme tous les grands avocats, le plus important pour lui était de gagner. C'était un ange, comme je suis majorette. Il était rusé, pour ne pas dire roué. Il avait une haute opinion de lui-même et pouvait se montrer dur et cinglant, voire cruel, utiliser tous les procédés possibles pour écraser un témoin ou influencer un jury. Et ce n'est pas lui faire injure de supposer qu'il a plus d'une fois déployé tout son talent et réclamé l'acquittement dans de poignantes envolées oratoires pour un client qui se disait innocent et qu'il soupçonnait d'être coupable. C'est la serpe de Philippe Génada, l'affaire Girard, après l'affaire Dubuisson et l'affaire Sulac, l'affaire Girard, qui nous est racontée de façon totalement étonnante, érudite et épique, on peut le dire, par ce romancier. C'est aux éditions Julliard. Academic Screw, un choix de Laurent Polleret pour cette playlist noire de ce soir. D'autres choix moins longuement évoqués alors à ce mauvais genre de la rentrée noire. Le diable en personne de Peter Faris aux éditions Gallmeister dans la collection néo-noir qui a changé de maquette d'ailleurs. Alors le diable en personne, bah c'est du néo-noir comme on l'aime.
C'est du néo-noir comme on l'aime. C'est du néo-noir très efficace. Le diable en personne, qui est-ce ? C'est Léonard qui vit en Géorgie du Sud, entouré d'épouvantails dans une ferme, entouré d'épouvantails avec un mannequin sur un fauteuil désarticulé qui représente sa femme qui a disparu, on ne sait pas trop comment ni quand, mais en tout cas c'est un original, il ne sort plus. Et sur ces terres où personne ne s'aventure, une jeune fille, toute jeune, 18 ans à peine, Maya, qui était une prostituée dans un vaste cartel de criminels, de trafic de drogue, blanchiment d'argent, etc., va être tuée par deux hommes. Et Léonard intervient et il va tuer l'un des types et mettre l'autre en déroute, et d'ailleurs le terroriser, puisque Léonard est vraiment le diable en personne, et il va recueillir Maya. Et donc Maya, abîmée par la vie, victime de la concupiscence, de la violence des hommes. Elle a entendu une histoire qu'elle n'aurait pas dû entendre. C'était la favorite du maire d'une grande ville des alentours. Donc, il faut l'éliminer. Et évidemment, Léonard la retient, la recueille. Tous les deux vont faire connaissance. Ils vont s'attacher l'un à l'autre. Et puis, bien sûr, le cartel va continuer de la poursuivre. Et il va se faire explosé par Léonard qui sait se défendre.
Ah, c'est du
et
pur,
c'est du pur noir pur et en même néo-noir. Temps il y a aussi cette composante affective qu'il y a aussi dans le noir avec cet homme, ce vieil homme. C'est une question, c'est le départ dans la vie, comment on quitte la vie, comment on entre dans la vie avec ces deux êtres qui se croisent l'un à l'aube.
C'est à la fois comment arriver à bien finir sa vie, c'est
et
le cas de Léonard, et bien comment à la redémarrer,
voilà,
c'est le cas de Maya.
C'est ça.
Autre titre.
Une autre mention, c'est Jusqu'à la bête de Timothée Demeyer chez Asphalte. Alors là, c'est un homme qui est en prison et qui réfléchit aux causes qui l'ont mené ici. Il était employé dans un abattoir et puis il assumait ses cadences. Alors on en parle beaucoup, hein, les employés des abattoirs, c'est terrible leurs conditions. Et puis il montre aussi à quel point le monde moderne, les conditions de travail, la dureté des sentiments, des relations entre les gens l'ont transformé peu à peu en animal. Le thème c'est on ne naît pas bête, on le devient. Comment ? C'était vraiment la société est pointée du doigt dans ses dysfonctionnements. Et enfin, une mention aussi, Jacques Côté, dans le quartier des Agités, les cahiers noirs de l'aliéniste, ça est sorti hier, avant-hier, chez Babel Noir, directement en poche, alors que c'est un inédit. Auteur québécois, très connu au Québec, je suis très contente qu'il soit publié en France. On est en juillet 1889 et on va suivre Georges Villeneuve, qui est un jeune médecin, qui va suivre les débuts de la psychiatrie et de la criminologie. Donc c'est une série qui commence là, il y a beaucoup de tomes. Et en fait, on est vraiment plongé dans ce milieu médical du Paris historique, avec les débuts vous savez, cette question de qui est criminel, qui est fou, ça se pose à ce moment-là. Et c'est vraiment passionnant, c'est un auteur extrêmement doué, il écrit très bien, on est pris dans ses histoires. Évidemment, il y a un serial killer qui coupe les nattes des femmes.
Ça, c'est célèbre. C'est un des personnages les plus célèbres de la psychopathie asexualis. Donc,
je vois que ça déclenche en vous beaucoup
d'intérêt,
parce que
non,
c'est très intéressant.
Le coupeur de nattes est une des figures les plus célèbres de la...
Et on le retrouve chez Jacques Côté.
De la paraphilie, allons-y.
Et vraiment, je célèbre cette sortie de Jacques Côté, faut pas du tout qu'elle passe inaperçue, c'est
non.
Très important.
Bah, vous venez de le faire entrer dans l'immortalité.
J'espère.
De même qu'Hubert Prolongeau va faire entrer dans l'immortalité Alexander McCall Smith, pardon, Precious and Grace. Precious et Grace.
Qui est déjà un peu dans l'immortalité. Voilà. C'est le 17e volume d'une série. Alors là, c'est l'anti-Chilperoud. C'est des romans merveilleux, avec une espèce de sagesse, d'humanité, de tendresse pour les personnages qui sont rares. Ça se passe en Afrique. Et pour une fois, on ne nous parle ni de génocide, ni de guerre tribale, ni de sous-développement, ni même du sida, qu'on évoque assez pudiquement comme la maladie qui tue tout le monde ces temps-ci. L'héroïne est une grosse bonne femme, on dit de constitution traditionnelle dans le pays, qui vit au Botswana, où elle a créé l'agence numéro 1 des dames détectives. Et à mi-chemin entre Don Camillo et Miss Marple, mène comme ça des enquêtes, d'où se dégage surtout une philosophie de vie qui est assez enthousiasmante. L'intrigue elle-même est un peu arachnéenne, dans celui-là il y a quand même 300 pages pour qu'on sache pourquoi une Canadienne née au Botswana veut retrouver sa nounou. C'est pas ça qui est totalement trépidant, mais autour de ça, il y a une espèce de galerie de personnages qui sont merveilleux. Donc après avoir lu La Tanche, lisez ça, puis ça remet quand même les choses dans l'ordre.
Merci madame, merci monsieur pour ces propositions de rentrée noire ce soir. Donc dans Mauvais Genre, le premier cercle noir de l'année, la première ronde noire que nous avons dansée ensemble. On va maintenant se déplacer légèrement et descendre à Toulouse. Avec vous, Maxime Lachaud. Maxime Lachaud, on évoquait votre intérêt pour le Sauterne gothique, l'école de Flannery O'Connor. D'ailleurs, il y a très bientôt une semaine entière sur Flannery O'Connor à France Culture, donc la compagnie des auteurs. On évoque également Faulkner. Mais vous êtes à l'origine d'abord du seul livre français sur Harry Crews, auteur que l'on bénit ici. Alors lui, comme auteur de Sauterne gothique et du Noir de Noir, c'est tout à fait étonnant. D'ailleurs, deux titres, Le Faucon va mourir et Body, viennent de ressortir en folio. Policier, vous êtes l'auteur d'un livre sur les Mondo Movies et les Redneck Movies. C'est vraiment un terroir que vous avez choisi. Il y avait véritablement chez vous une espèce de désir violent de ce monde-là, du sud américain, du Texas.
Je sais pas si c'est un désir, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas le choix, un choix autre que d'écrire ces bouquins-là, en fait. Comme si les sujets s'étaient imposés à moi, parce que c'était des choses sur lesquelles j'avais envie de lire de la documentation, trouver... Bah, me plonger totalement dans cet univers, et vu que personne ne l'avait fait, je l'ai fait moi-même.
Vous êtes allé sur place, d'ailleurs, vous avez publié récemment un récit de voyage au Texas qui était quand même assez haut en couleur.
Oui, c'est pas simple, hein. C'est un miracle que je sois là, d'ailleurs.
Ah bon, on en est d'autant plus heureux.
Voilà, oui, c'est voilà, mais après, quand je pars dans un sujet, j'y vais à fond, donc quand c'était les Mondo Movies, je suis allé rencontrer des cinéastes. Quand
Mondo Movies, Redneck, on en parlera un jour à mauvais genre, c'est une vieille promesse. Faudra quand le livre, je sais pas, il n'y a pas une deuxième édition, un tome 2.
Bah, on va essayer. Voilà, de toute façon, il est épuisé.
Ah, bah, alors parfait. On s'en réjouit, vous viendrez nous en parler. Alors, vous êtes avec nous, Maxime Lachaud. D'abord, vous êtes venu, comme beaucoup de gens, et ils ont raison, à l'Étrange Festival à Paris en ce moment, qui commençait depuis deux jours. Vous êtes le directeur artistique du Fifi Gros, le festival international du film Groslandais de Toulouse, qui se tiendra là-bas, donc, du 15 au 24 septembre. Mauvais genre est salué. J'irai y parler de Léon Blois et commenter les diables de Ken Russell. Alors, parlez-nous du Fifi Gros d'abord, la philosophie générale de la manifestation et puis les éléments les plus émouvants, les moments à ne pas rater cette année à Toulouse.
Alors, donc, le festival du film Groslandais est arrivé il y a 6 ans à Toulouse. Voilà, avec l'idée de défendre un cinéma un peu ovni, un peu bien subversif aussi, drôle. Hein. Toujours dans la bonne humeur, l'humour noir, l'humour jaune, la satire, la provocation, et puis quelque chose d'assez libertaire. Et nous, ce qui nous intéresse aussi depuis le début, c'est de pas mal travailler sur la pluridisciplinarité. Il y a aussi un prix littéraire, on fait des projections dans des lieux assez insolites.
Alors, lesquels et quoi?
Alors, par exemple, cette année, on va rendre hommage, c'est les 90 ans de Kenneth Anger. Donc, on va faire une projection de la chapelle des Carmélites, qui est un monument du gothique méridional à Toulouse. Et ça collait tellement bien avec l'univers baroque de Kenneth Anger. Et on est très content, on va travailler avec une association de Bordeaux qui s'appelle Monokini, qui fait des projections à 16 mm. Donc, on va faire une sorte de vernissage performance, où il y aura de la bobine, il y aura...
De la bobine.
De la bobine 16, voilà. Il y aura toute une ambiance, et notamment on va... Bon, je ne sais pas si je peux le dire là, on va utiliser la partition originale qu'avait voulu Kenneth Anger pour son film, mais dont il n'a pas eu les droits, en fait.
Donc vous êtes transgressif jusqu'au bout.
Voilà, on fait des choses pas bien, on va faire... aussi dans les choses assez délirantes, ça sera une proposition avec Potemkin, qui est un éditeur,
oui,
distributeur.
Kenneth Anger d'ailleurs.
Voilà, avec qui on travaille pas mal. Et là, ça sera autour des courts-métrages de David Lynch, où là aussi, on va tout d'un coup transformer la salle de cinéma, une sorte de théâtre à la fois glamour et freaks. Il y aura une performeuse, Elena Patricio, qui sera là, qui s'est totalement plongée dans cet univers. Et là aussi, c'est des choses qu'on aime bien faire, une séance gros abus aussi, avec des projections en plein air, un drive-in à l'américaine.
Alors, il y a des festivals qui sont concentrés sur un seul lieu, vous explosez littéralement, vous pulvérisez, vous êtes partout dans Toulouse, et même au front, dans les faubourgs, on vient à la banlieue de Toulouse,
carrément.
Dans un drive-in, quel film montrez-vous?
Alors, c'est autour du film Hamburger Film Sandwich, de John Landis, et... À partir de ça, on a construit une programmation. Il y aura des concerts aussi. Il y aura des gens en roller qui viendront apporter les burgers dans les voitures.
Donc le drive-in.
Le drive-in à la scène avec le son qui sort des postes radio. Donc ça va être assez hallucinant. Là aussi, c'est des plongées dans des univers. Voilà, c'est retrouver presque la magie de la projection, tout simplement.
Le Fifigro, Festival international du film groenlandais de Toulouse, c'est donc à Toulouse, fifigro.com, pour avoir tous les renseignements, tous les détails, tous les horaires et tous les performeurs. C'est du 15 au 24 septembre, 9 jours de folie à Toulouse. On termine cette émission, bien évidemment, à part de Toulouse à Barcelone, avec Christophe Beer.
Après la mort du Caudillo en 1975, étouffé par 36 ans de dictature franquiste, l'Espagne connaît une effervescence culturelle extraordinaire qui fait éclater les tabous politiques, religieux et sexuels. Emblème majeur de la Movida, le mensuel de BD underground El Vibora sort son premier numéro en 1979 sous une couverture choc dessinée par Nazario, une tête transpercée de balles. Il y publie Anarcoma, détective transsexuel, menant une enquête enchevêtrée dans une Barcelone séditieuse peuplée de travestis, de michetons, de pédés cuir poilus, de gigolos membrés Tom of Finland et de robots baiseurs inépuisables. L'ordre occulte du comte noir s'inspire de Franju, mais la lesbienne Métamorphosa, à la tête de sa horde d'Amazone borgne, est aussi sentimentale que la reine noire de Barbarella. Marge poisseuse, ambiance nocturne, Barcelone est dangereuse comme la Dark City interlope d'un vieux polar US. Aussi amphétaminé qu'en quatrième vitesse, l'enquête bifurque dans la science-fiction. Il s'agit de retrouver une machine volée qui annihilerait le désir. Son inventeur, des gangsters, des sectateurs fous de Dieu, tous veulent la retrouver. Inachevé, les aventures d'Anarcoma ne mettront jamais un terme à cette traque, prétexte à un foutoir extravagant, obscène, pornographique. De pissotière en enterrement mondain, le sexe et la drogue triomphent à toutes les cases, comme dans les premiers films de Pedro Almodovar. Mélange de Lorraine Bacall et d'Humphrey Bogart, selon Nazario, Anarcoma incarne la force anarchiste, irréfrénable du désir qui s'emparait alors des milieux gays barcelonais. Sous le trench coat, elle porte des barésilles et des cuissardes, tapine sur les ramblas et érige fièrement sa queue. Vamp fatale pour voyous bien montés, elle imite Sarita Montiel au Torpedo, un cabaret de travelot. Avec ce anti-héros exubérant, Nazario s'oppose aux dernières forces conservatrices qui freinaient la transition démocratique. Phalanges militaires et pouvoirs religieux s'effondrent dans leur stupidité face à l'inventive et bouillante provocation de la Movida. Misma Édition vient d'établir avec un soin maniaque une magnifique édition complète d'Anarcoma. Nazario a tenu lui-même à revoir les mises en couleur de certaines histoires. Ces nouvelles options renforcent les atmosphères hard-boiled de son œuvre, vicieuse et kitsch, comme une comédie musicale coécrite par John Waters et Jean Genet.
Merci infiniment, Christophe Beer. Je rappelle les sujets évoqués ce soir dans Mauvais Genre. Le cercle noir premier du nom. Glaise de Frank Buys à la manufacture des livres. Inge Schilperout, La Tanche, c'est chez Belfond. Philippe Janada, La Serpe, c'est aux éditions Julliard. Le Diable en personne de Peter Faris chez Glenmeister. Alexander McCall Smith, Precious and Grass and Grace chez 10-18. Jacques Côté dans le quartier des Agités. Les Cahiers Noirs de l'Aliénis, c'est en Babel Noir. Jusqu'à la Bête de Timothée de Meillet, c'est chez Asphalt, et puis tous au Fifigro à Toulouse, du 15 au 24 septembre. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Claire Levasseur, Séam Boutata, Claire Martin Duguerre, Céline Duchesnay, Élise Lépine, Hubert Prolongeau, Christophe Biré, François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain sans faute, et nous serons avec Antoine Guillot pour chanter la gloire du grand Lewis Trondheim. Bonsoir à tous. Et on ne quitte évidemment pas l'antenne de France Culture, on retrouve l'année 67, qui est, comme chacun sait, très proche de l'année 68, où tout a été possible. De nouveau, bonsoir à tous.